Le mot de la gnose est le, au premier temps du christianisme, au moment où les premiers disciples, qui sont des gens simples, hein, la diffusion du christianisme s'est faite par des esclaves, par des gens qui étaient vraiment, qui n'étaient pas des intellectuels, hein, qui n'étaient pas non plus des gens initiés. Hein. C'était vraiment... ils avaient découvert le Christ, l'amour du Christ, et ils n'avaient d'autre désir que de faire partager ces commandements donnés par le Christ, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son corps, de toute son intelligence, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est les deux commandements qui président au christianisme. Donc, et saint Jean va dire, comment aimer Dieu? Eh bien, il va dire, on aime Dieu si on aime son prochain. Et comment aimer son prochain? Eh bien, en se rapprochant de Dieu. C'est ça, hein, les lettres de saint Jean. On va retrouver cette permanence relation entre la transcendance la plus inouïe et cette concret du frère, le sacrement du frère. Et le sacrement pas que du chrétien, hein, le sacrement de c'est la personne, du prochain que l'on rencontre. C'est ça le fondement du christianisme. Donc voilà. Mais à cette diffusion des premiers chrétiens, eh bien, dans le monde de grec, il y avait un certain nombre de lieux d'initiation, de type gnostique, c'est-à-dire de connaissance. Nous avons ça avec les pythagoriciens. Vous connaissez le triangle de Pythagore, mais le Pythagore était dans un mystère qui lui venait d'Alexandrie, etc., donc qui était en lien avec les gnoses égyptiennes, etc. Bon, et il fallait rentrer pour avoir la connaissance dans une perspective initiatique, réservée à un petit nombre d'initiés. Et donc, dès le début, il y a eu ce conflit ou ce combat, d'une certaine manière, entre les pères de l'Église tenant à la grâce de Dieu et à la gratuité de cette grâce et ceux qui étaient rentrés dans une perspective d'ordre initiatique. Donc de connaître, d'avoir la connaissance, gnos ça veut dire connaissance, mais par voie initiatique. Et il y a eu toujours ce conflit qui a traversé l'histoire des premiers siècles, mais qui dure jusqu'à aujourd'hui, hein. Les chrétiens reçoivent, comme je vous le disais, cet amour de Dieu de manière gratuite. Le gnostique essaye par ses propres moyens d'accéder à une connaissance supérieure. Voilà, pour faire très court.
Alors moi, je me suis reconnu à 50%, pas complètement. Je ne dois pas avoir dépassé le stade du premier degré. Je n'ai pas enfermé ma belle-mère dans un sac. Je ne suis pas monté dans le cosmos.
Ah, ça va.
Donc, voilà, j'ai reconnu certaines choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs façons de présenter la sophrologie? Parce que la personne qui me fait ça, par exemple, je ne la reconnais pas, là, bien entendu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs façons, plusieurs... Je parle pas de méthode, parce que méthode, c'est trop enfermant. Et donc, plusieurs façons d'aborder ces choses-là.
Mais bien entendu, je veux dire, encore une fois, le sophrologue qui pratique, comme la plupart du temps, que le premier degré, je veux dire, j'ai aucun problème. Je vous dirais que tout ce que j'ai cité, c'est, je le cite à partir de livres multiples de sophrologues qui ont été très très loin dans la sophrologie. Donc j'en suis pas resté au premier niveau, si vous voulez. Mais je suis d'accord avec vous.
Pas de problème. C'est un sophrologue.
Comment ?
Francis Weber, que vous avez cité.
Non, mais naturellement. Non, non, c'est le seul qui ne soit pas sophrologue. Mais je
quand
l'ai
cité. Vous avez parlé de Sortie de Cosmos, tout ça. Bon, ben là, c'est un roman qu'il a écrit. C'est l'imaginaire.
C'est le livre de la vie. C'est une méthode de relaxation.
Il y a aussi les
Thanatonautes. Les Thanatonautes. Thanatonautes.
J'avais lu,
Non, mais attendez, j'ai redit ça parce qu'il y avait une ressemblance, mais extraordinaire, entre sa proposition, vous voyez, dans le livre de la vie, et certains exercices qui sont proposés au deuxième et troisième niveau de sophrologie. Sortie de corps, de se voir de l'extérieur.
Nous, en formation, on ne parle pas de sortie de corps, justement. Il y a toujours un fil d'Ariane avec le corps et l'esprit, et en particulier dans le deuxième degré, on parle de conscience enveloppante. Donc, ce n'est pas détaché du corps.
Qu'est-ce que vous appelez fil d'Ariane ?
C'est-à-dire que notre conscience est toujours avec notre corps.
Mais vous êtes, vous visualisez de l'extérieur quand même.
Il y a une visualisation, mais ça c'est comme, je dirais, quand on rêve, on a une visualisation.
Mais attendez, le fil d'Ariane dont vous parlez, vous avez exactement la même perspective dans les voyages astro, ça s'appelle le fil d'argent. C'est exactement la même chose.
Non, c'est pas pareil, un fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est ne pas oublier.
On reste en lien avec son corps et surtout pas sortir du corps.
De se visualiser à l'extérieur du corps.
Oui, mais sans être détaché de son corps.
Mais non, mais attendez, dans les voyages astro, on n'est pas détaché de son corps non plus. Hein, autrement, non, non. Non. Il faut suivre le fil qui sort du nombril. Mais on est toujours dans ce lien-là, si vous voulez. Autrement, ça peut être effectivement très dangereux sur le plan dissociatif. Hein.
C'est une construction totalement imaginaire.
Mais c'est de se voir de l'extérieur, même relié par un fil d'Ariane, me paraît pas une chose juste, si vous voulez. Mais simplement sur le plan, vous voyez, de voilà. Mais après, voilà.
Ça ressemble à une évasion séduisante au niveau supérieur. Une évasion. Ça ressemble. Enfin.
Mais après, voilà, c'est...
Moi, je ne vois pas l'incompatibilité des deux, de sa vie chrétienne et le fait de vouloir être mieux. Si je suis mieux, je vais être plus proche de la personne, justement, qui va être avec moi.
De toute façon, si vous voulez, toute la perspective chrétienne se situe dans le « connais-toi toi-même ». Hein? Et il n'y a pas un maître spirituel, Sainte Thérèse d'Avila, n'accueillait pas de personnes qui n'étaient pas dans un connais-toi toi-même. Hein? Donc, c'est très important pour la mystique chrétienne d'être dans le connais-toi toi-même. Il y a plusieurs types de connais-toi toi-même. Il y a un connais-toi toi-même qui est lié aux événements que nous vivons. Et Pascal dit, les événements sont nos maîtres. Les événements, on ne va pas les projeter à l'avance. On ne les induit pas. Les événements arrivent. Ils arrivent parfois brutalement, parfois heureusement, mais parfois brutalement.
C'est aussi peut-être le livre qui nous arrive dans les mains. C'est ça l'événement aussi.
Oui, mais si vous voulez, quand vous lisez la Bible, le chrétien va relire et relier les passages de la Bible à sa vie et son existence d'aujourd'hui. Et c'est sans cesse un incessant relation avec le réel. Mais à aucun moment dans la prière, à aucun moment nous sommes dans une perspective projective ou même d'imaginer son passé. Nous essayons autant qu'on peut, parce que c'est quand même pas... d'être dans l'ici et le maintenant, d'être dans la présence à la présence et d'être dans cette disponibilité à ce qui advient.
Une personne qui est en souffrance, elle n'est pas disponible.
Mais si vous voulez, si une personne qui est en souffrance, et je me situe deux choses en matière thérapeutique, on va essayer de progressivement qu'elle s'apaise, mais on ne va pas lui donner des outils imaginatifs pour s'abstraire de sa condition de son aujourd'hui et de maintenant. Vous voyez, la question, si vous voulez, elle se situe à cet endroit-là. C'est-à-dire que la prière chrétienne, elle n'est pas dans la désincarnation. Elle est toujours dans un surcroît d'incarnation.
Je reviens. Si vous prenez l'Évangile, Jésus n'a jamais centré l'Évangile sur se sentir mieux. La première parole que prononce Jésus dans l'évangile de Marc, par exemple, c'est « Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Mais l'évangile n'est pas d'abord un mieux-être ici-bas. Ça y contribue. Il y a des aspects comme ça, mais il n'est pas d'abord un...
C'est pas d'abord opératoire. c'est pas d'abord opératoire. L'amour d'une maman pour son enfant, elle va plus chercher le bien de son enfant avant son propre bien, d'une certaine manière. Et voilà. Eh bien, c'est la même chose, si vous voulez. C'est en levant le regard, sursum corda, en levant le regard, que quelque part, une autre réalité nous apparaît que la réalité, que l'on, même que celle qu'on peut imaginer. Y a quelque chose qui est... La foi, c'est quelque chose qui est surnaturel. Et donc, nous ne pouvons pas accéder à cette foi par des choses qui soient des exercices naturels. Peut-être même qu'un certain nombre d'exercices peuvent nous étanchéifier au théologal. Et pour moi, c'est la véritable question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ?
Oui. Là, je vous retrouve, en fait. Je comprends ce que vous...
Oui, nous étanchéifier au théologal. C'est-à-dire qu'à force d'exercice, nous pouvons créer, d'une certaine manière, un auto-blindage dans lequel on va être bien. Dans lequel on va être bien, si vous... et même on va peut-être être épanoui, etc. Mais, si vous voulez, encore une fois, je ne serai plus dans une relation. Et je serai plus dans une, encore moins dans une oblation. C'est tout.
Je pense que ça rejoint un petit peu ce que vous nous dites. On peut avoir aussi besoin de psychothérapie quand on n'est pas bien.
Naturellement.
Et c'est pas le spirituel qui va nous guérir.
Vous avez raison.
Il faut choisir aussi son psychothérapeute. Oui. Quelquefois, c'est indispensable. Quand on n'est vraiment pas bien, il faut aussi se soigner, quoi, je pense.
Mais vous voyez, je reviens à des choses que j'ai souvent dites, mais vous voyez, tant au niveau de la psychothérapie que de la médecine, que toute thérapie, si vous voulez, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une technique. Nous sommes dans une technique. Et donc, toute technique a sa valeur en soi. Voilà. Cependant, comme le disait Ambroise Paré, je le pense de pansement. De pansement, hein. C'est-à-dire que je suis dans une technique du pansement, de l'acte chirurgical, de l'acte psychothérapeutique, mais c'est Dieu qui guérit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à aucun moment que je me prenne pour Dieu ou que je prenne le thérapeute pour Dieu. Parce que là, il peut y avoir étanchéifié. Étanchéifié. Voilà.
Une petite question. Si admettons, parfois on culpabilise pour telle ou telle chose, on demande pardon à Dieu, et puis... on a du mal à être sûr qu'il nous pardonne. Alors qu'on s'imagine Jésus qui nous entoure de ses bras. Est-ce que c'est pas quelque part un peu une mentalisation pour faire qu'on sente mieux et c'est pas...
je crois que d'une certaine manière, il faut faire attention. Nous pourrions peut-être sophrologiser l'Évangile. Et là, je suis d'accord.
Dans les bras de la Vierge tous les soirs.
Attention. Parce que si vous voulez, vous pouvez jusqu'à instrumentaliser le spirituel. Or, si vous voulez, la prière, c'est un acte d'amour. Et si je prie, c'est pas prioritairement pour être mieux, mais c'est pour être en relation.
Oui, mais le problème, c'est que parfois, si on culpabilise trop et qu'on n'arrive pas à se rassurer, en se basant sur Dieu... Ça coupe tout.
Moi, j'aurais voulu dire, plutôt que d'essayer de visualiser qu'on est dans les bras de Dieu, il s'agit de développer l'acte de foi dans la parole sacramentelle donnée par le prêtre. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Christ. La parole sacramentelle suppose une adhésion de foi qui n'est pas d'ordre sophrologique, de mentalisation. On peut remplacer l'un par l'autre.
C'est bien que tous les jours, tout le monde empêche,
c'est,
à ce moment-là, il faudrait qu'on
c'est plus difficile de poser l'acte de foi, parce que c'est sec. C'est plus agréable de mentaliser, c'est plus cotonneux.
Ouais. Non, mais ce que je veux dire, ça voudrait dire qu'on ne serait pas rassuré, tant qu'on n'aurait pas été se faire confesser.
Du moins, je prenais effectivement la question du pardon comme passant par le sacrement. C'est pas obligatoire, effectivement.
Voilà. Parce que...
Mais n'empêche, même en dehors du sacrement, par exemple, une simple démarche de contrition qu'on pourrait faire à la prière du soir, par exemple, c'est poser l'acte de foi dans la grâce de Dieu, qui est le plus important. C'est pas de se sentir bien dans les bras de Dieu.
Et comme quoi, finalement, beaucoup de... comment dire... d'adeptes chrétiens, finalement... s'aperçoit qu'il mentalise aussi, finalement. On ne sait pas.
Ah ben, c'est... Oui, oui, bien sûr.
Non, mais attendez, si vous voulez. Là, nous allons retrouver les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Que fait-il ? Il essaye d'être toujours dans le sensible. Hein, et il y a tout un travail sur le sens dans Saint Ignace de Loyola. Et donc, c'est de partir d'un texte de l'Évangile, de le sentir, de le goûter, de voir les personnages, d'être présent à l'action. C'est quelque chose, voilà. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que c'est la parole qui est première. Et il faut sans cesse y retourner pour ne pas être dans un processus d'évasion, mais dans un processus d'incarnation. Parce que cette parole dit quelque chose de la présence de Dieu. Donc je peux sentir, goûter, essayer d'être le plus possible dans l'action que ça représente, mais je dois sans cesse faire cet effort d'incarnation de cette parole. Et par conséquent, l'objectif dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola n'est pas d'être bien. Attendez, c'est pas d'être bien. Quand on fait ces exercices par rapport à la parole, on peut avoir des désolations ou des indifférences totales ou des consolations. Et nous ne les maîtrisons ni les unes ni les autres, parce que quelque chose qui est, enfin quelque chose, c'est quelqu'un qui est l'Esprit Saint, celui qui est notre consolateur, notre avocat, celui qui veut nous faire du bien, va nous ouvrir les yeux à la réalité de cette parole. Mais cette parole, elle peut être sacrément râpeuse. Si vous êtes confronté à telle parole qui vous renvoie à quelque chose de votre vie que vous n'avez pas, que vous avez opacifié, cette parole peut entraîner des révoltes, peut entraîner véritablement des tensions très fortes. Donc la relation à la parole de Dieu n'est pas une relation de béatitude, enfin je veux dire, ou d'être bienfaisante, ou de nous caresser dans le sens du poil. Enfin, vous voyez, c'est rugueux. On est dans quelque chose d'assez viril dans cette relation à la parole, parce qu'elle nous, elle nous casse les pieds. Hein. C'est une conversion. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion ? C'est véritablement comme une transformation de notre être, même une transformation qui n'est pas naturelle. C'est pas une transformation naturelle. C'est une transformation surnaturelle. C'est-à-dire que nous sommes amenés, à travers cette rugosité de la parole, à accueillir en nous la vie éternelle. C'est ça le théologal. Le théologal, c'est d'accueillir, sous les motions de l'Esprit-Saint, une vie éternelle. Et nous, nous sommes toujours barrés dans notre imagination d'une béatitude ou d'un bonheur temporel. Or, quand vous lisez les béatitudes, ça vous râpe dans le sens contraire du poil. Certaines béatitudes, bienheureux ceux qui sont insultés à cause de mon nom, enfin, etc. Vous voyez, bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Mais alors attendez, si je suis dans une démarche où je cherche à être bien, je ne vais pas aller au feu. Hein. Jamais. Hein.
C'est un combat.
Ah, c'est un combat. Ah, ben c'est un combat des combats. Hein. Ouais. Et on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller. Je vais vous dire encore un autre truc. Dans la vie spirituelle, que ce soit la vie du peuple de Dieu qui a vécu un accouchement à travers cette traversée de la mer Rouge, c'est l'accouchement d'un peuple, et il se trouve confronté au désert. Attendez, vous avez envie d'aller au désert ? Personne n'allait envie d'aller au désert. Ouais, on a envie d'y aller touristique, hein, avec le truc où une semaine après, on revient. On n'a pas envie d'aller au désert. Or, le souffle saint, après le baptême du Christ, l'envoie dans le désert. Et dans ce désert, il est tenté 40 jours par le Satan, qui lui dit, mais attends, allez, vas-y, on va transformer les... tous les trucs que l'on imagine de bien. On va transformer les pierres en pain. On va pouvoir se jeter du haut du temple, hein, et les anges vont nous soutenir. Hein. Vous voyez, tous ces processus imaginatifs du Toto, ils sont tous là. Hein. Et puis, regarde ces mondes, si tu te prosternes à mes pieds, je te les donne. La tentation du désert. Dabar, en hébreu. Midbar. Midbar. Et Midbar, le désert, où on est conduit par l'Esprit Saint, sont des espaces désertiques où on ne veut pas aller de soi-même. On ne veut pas y aller parce que c'est contre nature. Et parfois, dans nos vies, le Seigneur nous y conduit pour recevoir d'abord une parole. Je t'ai emmené au désert pour parler à ton cœur, nous dit le prophète Osée. Donc vous voyez, on est entraîné là où on n'aurait pas voulu aller pour pouvoir obéir à une parole créatrice et recréatrice de nos vies, pour une vie éternelle. Et on ne veut pas y aller, parce que c'est contre nature. Et c'est pourtant à ces endroits-là que non seulement nous sommes confrontés à notre propre finitude, nos propres solitudes, nos propres manques, nos propres travers, nos propres combats intérieurs, mais le Seigneur vient à ces endroits-là nous donner sa vie. Sa vie. Ça rejoint la question que vous posiez, Dieu en soi. Oui, mais Dieu en soi, certainement. Mais Dieu vient nous diviniser par sa parole. Et non pas par une recherche de notre propre potentialité.
Et donc, imaginons que tout le monde rencontre des difficultés dans sa vie, dans son cheminement, plus ou moins fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement... par rapport aux dernières paroles que vous venez de dire, on s'inscrit dans une espèce de passivité. On se laisse aller dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, je ne sais pas si je suis claire.
Reformulez-moi, peut-être j'ai pas été suffisamment attentif.
Dans des moments de difficulté, comme monsieur qui dit, mais est-ce qu'on peut se faire aider quand même en fonction de selon certaines approches, si on rencontre si on sent qu'on va sur des. On rencontre des difficultés importantes évidemment, mais on ne veut pas y aller, c'est contre nature. Enfin, on ne veut pas aller au désert, c'est ce que vous venez de dire. Mais en même temps, c'est ce qu'il faudrait.
Non, mais attendez, il faut pas. Non, mais attendez, il faut pas y aller au désert de manière volontaire. Hein. Ce serait pas juste.
Non, mais oui, mais c'est généralement non, attendez. Volontaire. Hein.
Quand on est confronté à des choses difficiles, on n'y va pas, si vous voulez.
C'est suivi, oui.
Oui, mais l'expérience qu'on peut faire à l'intérieur même de ces lieux-là, c'est d'une certaine manière des rencontres, une parole, des choses qui vont résonner de manière plus profonde et plus intérieure en nous. Et d'une certaine manière, ces épreuves peuvent nous construire en humanité. Et ces épreuves-là peuvent nous permettre de rencontrer l'autre, avec lequel on était jusqu'à présent un peu hermétique par rapport à ce qu'il vivait. Le fait d'avoir été creusé par cette épreuve fait que l'autre devient davantage mon frère. Et celle qui a vécu telle épreuve devient davantage ma sœur. C'est un mystère, ça. C'est un mystère. Et c'est le mystère aussi de l'Église. Le mystère de l'Église naît dans la prière avec un Dieu, viens à mon aide. Quand on est dans la merde et qu'on peut plus la péter, soit sur le plan financier, soit sur le plan de notre santé, soit sur le plan de quoi que ce soit, quand on est vraiment dans le désert, peut-être que là, sourd de notre cœur un cri. Et ce cri, c'est Dieu, viens à mon aide. Ou Saint-Esprit, viens à mon aide. Viens à mon aide, à la mienne. Hein. C'est le début de la prière chrétienne. Viens à mon aide. Parce que je suis en train de crever. Ou j'en peux plus. Viens à mon aide. Eh bien, la réponse devient ecclésiale. Seigneur, viens vite à notre secours. Parce que chacun fait cette expérience singulière d'une présence au cœur de son désert. Et cette expérience-là, quand nous la partageons, quand nous la vivons ensemble, devient ecclésiale. et nous reconnaissons que nous avons été, à travers l'expérience de vie si douloureuse, rejoints dans le creuset de notre intimité.
Excusez-moi, c'est pas toujours aussi, ça se résout pas toujours aussi facilement.
Non, non.
Et heureusement.
Oui.
Moi, ça m'est arrivé, ça ne va pas beaucoup tout le monde, dans le profond du trou, et j'ai eu besoin de psychiatre à certains moments, et c'était, c'est pas la prière qui m'a débloqué.
Mais je suis d'accord. Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Non, bien sûr.
Il y a Ben Sirac.
Mais la prière ne fait pas toujours aussi mal, quoi. Le psychiatre, par contre, m'a aidé.
Oui.
Et pas n'importe quoi, parce que le premier, ça n'a rien donné, puis le deuxième, ça va. Et je pense qu'il faut aussi chercher, il y a quelquefois des solutions, mais que Dieu nous demande de chercher, qui sont des solutions humaines aussi. Hein.
Alors, c'est ce que vous dites là, c'est exactement ce que dit Ben Sirac le sage. Quand tu es malade,
chapitre 38,
quand tu es malade, essaye de rentrer dans un processus de réconciliation. Vraiment, essaye de te réconcilier avec toi-même, avec ton frère, avec le bon Dieu. Et il dit, et va voir le médecin parce que Dieu l'a créé lui aussi. Ça ne se passe pas sans incarnation. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que l'Esprit Saint nous précède tout le temps. Et si on est dans une disponibilité de cœur, de conversion, de manière, et ça je le crois, c'est ma foi, ben l'Esprit Saint va me faire rencontrer peut-être un psychiatre athée qui ne croit pas du tout au bon Dieu, mais qui va être le gars qu'il va falloir que j'aie à ce moment-là pour que me remette debout.
C'est vrai que c'est pas toujours facile, à discerner, mais merci. Quelquefois, on a besoin aussi d'appui humain.
Je crois que l'humilité, c'est une des forces essentielles de toute façon, ce que vous disiez en début, ça je rejoins tout à fait. Et l'origine de la paix, tout à l'heure, comme vous disiez, par rapport... je ne pense pas qu'on nous parle qu'on est l'origine de la paix. On est tous des transmetteurs, comme vous disiez, de la paix. Si chacun de nous avait cette paix en nous, peut-être que le monde serait différent de ce qu'il peut l'être aujourd'hui.
Qu'est-ce que la méditation transcendantale proposait dans les années 60-70? Si ce n'est de faire combien, 2 fois 20 minutes
par jour,
de méditation par jour pour essayer effectivement d'harmoniser les énergies de paix de l'univers. Mais on est quand même on est quand même ailleurs, si vous voulez, que dans la perspective chrétienne qui consiste à accueillir la paix du Saint-Esprit, la paix du Saint, qui vient du Saint-Esprit et qui n'est pas une énergie cosmique, qui est une personne. C'est pas la même chose. Et c'est pas donné dans une technique. C'est donné dans une démarche d'humilité, là je suis d'accord, mais de foi.
Mais on peut aussi avoir la foi aussi en faisant une technique. Voilà, je sais
pas. Eti Issoum avait une très belle phrase en disant que notre plus grand devoir moral, c'était d'avoir des espaces de paix en nous et de les élargir de proche en proche. Et que, dans la perspective chrétienne, ce sont pour elle, mais... Elle-même disait ça, au cœur de la détresse des camps de la mort. C'est magnifique. Hein.
Ce mystère est un mystère. Hein. La paix du Christ, c'est la première chose qu'il dit après sa résurrection. Je vous donne ma paix, je vous offre ma paix. Et ce mystère de la paix, c'est un mystère qui vient du mystère de la mort, de la passion, de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire que c'est parce que le Christ a pris sur lui le péché du monde, il l'a pris sur lui, qu'il vient nous donner cette paix inouïe, capable de l'inimaginable, c'est-à-dire de nous pardonner nos péchés. Cette paix est liée aussi au pardon. Nous ne pouvons pas nous auto-pardonner. Nous ne pouvons pas mettre les conneries qu'on a faites dans un bol de plastique et on le fout à un coup de pied dedans, si vous voulez. Non, mais non. Non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La paix, vraiment la paix du chrétien, elle est reçue dans cette relation inouïe de l'amour et de la tendresse de Christ qui est passée par la mort, par le creuset de la souffrance, et non pas dans une attitude de béatitude où il n'a pas éprouvé notre humanité. Vous voyez ? Ça, c'est quelque chose de fondamental. La paix naît de cet inouï de la résurrection.
Est-ce qu'on pourrait confondre la paix avec la paix, ce que j'appelle la paix des cimetières?
Oui.
Hein, où, voilà. Enfin, des fois, j'entends zen. Enfin,
tout oui, zen. Moi, soyons positifs.
Zen. Sois zen.
Ah oui,
mais ça. Pour moi, peut-être, mais c'est, pour moi, c'est la surface, quoi. C'est, voilà, tout est tranquille, c'est la paix, enfin, j'appelle ça la paix cimetière, quoi.
C'est la paix psychologique, quoi.
Oui, je sais pas.
C'est pas la paix spirituelle.
Je sais pas, mais je crois qu'il y a...
On confond au niveau psychologique.
Il y a un combat où il y a
une je pense que la paix, enfin, la vraie paix passe par la croix. Pour chacun, pour le Christ.
Le combat, c'est pas agréable. On veut pas y croire.
Pas d'autre solution.
Oui, ça c'est sûrement.
Mais quelquefois, quand la proie est trop lourde, on peut avoir des ailes.
Il y a peut-être d'autres questions. Il y a peut-être d'autres questions ou d'autres affirmations.
Pour les gens qui ne connaissent pas la religion, la sophrologie peut être quand même une sacrée, un sacré moyen d'une ouverture. Parce que si la personne trouve une paix, après, peut-être que cette paix. Le fait de passer par la sophrologie n'est peut-être pas en adéquation avec la religion. Mais si cette personne-là est mieux après, ça peut l'ouvrir justement à une ouverture à l'autre.
Quel est le niveau de mieux-être? Et moi, je pense avec Jacques Maritain qu'il peut y avoir de la fausse monnaie, si vous voulez. Et donc, il peut y avoir des... Dans la vie spirituelle, si vous lisez Saint Jean de la Croix, vraiment, le maître falsificateur, le maître du mensonge, c'est le Toto. Et précisément, le Toto, le diable, si vous voulez, le diable. Mais le diable est un être spirituel. Hein. C'est-à-dire qu'il a capacité à vous donner l'illusion de cette paix. Il a capacité à donner l'illusion de la paix. Il a capacité à donner l'illusion du bien, du bon, du juste.
Oui.
C'est un maître prestidigitateur.
Oui, non, mais ce que je disais...
C'est... Ah non, mais moi, alors attendez. Moi, ce que je dis aussi, si vous voulez, c'est que, d'une certaine manière, si vous accédez à des niveaux supérieurs qui sont au-delà de la prise de conscience qui est saine, qui est juste, qui est bonne, que nous pratiquons, je suis kiné, enfin voilà. Si vous voulez, si vous allez dans ces niveaux mentaux, vous, comme je le disais tout à l'heure, le risque, il est plus dangereux pour un chrétien. Mais il est aussi dangereux pour un non-chrétien, c'est de vous étanchéifier au théologal. Je vais vous dire une anecdote. Une anecdote très concrète. J'avais une de mes bonnes amies qui était recommençante. Recommençante dans la foi, si vous voulez. Hein. Elle venait et goûtait les offices. Quelque part, elle avait une grâce particulière. Parce que parfois, c'est pas marrant, hein, la messe. Enfin, puis il y a parfois que des vieux. Enfin, c'est pas très marrant. Eh bien, elle avait la grâce... Hein?
Le sermon du curé.
Le sermon du curé. Hein. Avec un niveau sophro-libinal.
Il n'y a des paroissiens qui aiment.
Non, mais vous voyez le truc. Hein. C'est une grâce particulière de trouver un goût. À la liturgie, je vous assure, c'est il y a quelques... Hein? Ah oui, bon, d'accord. Eh bien, elle était là-dedans. Et c'était, oui, c'était magnifique. On partageait, elle venait à l'adoration eucharistique, on partageait la parole de Dieu, et on a vraiment vécu des moments vraiment très beaux. Elle a été atteinte d'un cancer du sein. Elle s'est fait soigner le cancer du sein. Elle s'est fait soigner le cancer du sein dans une clinique du Mans où on lui a proposé des trucs de sophrologie. Elle a été dans le truc de sophrologie. Et puis, elle y a pris goût. Elle était dans son truc. Hein. C'était super. Et puis, elle était capable de se mettre là-dedans, dans ce bocal-là. Enfin, excusez-moi du terme péjoratif, mais elle a pris son pied là-dedans. Parallèlement à cette histoire où elle était plus investie dans la sophrologie, qu'elle faisait de plus en plus chaque jour. Non, mais vous voyez... Elle avait changé sa paire de lunettes. Les temps d'adoration, de silence devant le Seigneur, à adorer le Seigneur dans sa présence, lui devenaient insipides. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
la période où elle a retrouvé le recommencement là.
Ça a duré environ 3 ans. Elle a accompagné aussi sa fille qui elle-même a fait une démarche. Voilà, c'était. Mais je ne veux pas donner trop de détails parce que je ne veux pas qu'on voit qui c'est. Ouais. Bon, voilà. Mais si vous voulez, vous voyez le truc. Et donc, à un moment, elle fait sa sophro. Elle était dans sa bulle de sophro. Et la dynamique de la parole de Dieu, de la présence, des sacrements, de la liturgie et du frère, elle ne voyait que la paire de lunettes où les gens étaient complètement restreints dans leur problématique de trucs un peu étriqués. Hein. Vous voyez le truc. Il y a une question de grâce, vous voyez, et il y a une question d'étanchéification
de
la grâce.
Comment est-ce qu'elle peut avoir la grâce, justement, hein, et la perle?
Eh bien, mais c'est le combat la liberté, spirituel. Hein.
La liberté.
Je vais vous dire, moi-même qui vous en parle, là, je peux vous dire qu'il y a des moments, j'ai besoin d'aller me retrouver le sacrement de réconciliation, parce que je peux être dans une vision où je trouve que mon voisin de messe, il est un peu bourné. Ça m'arrive. Hein.
C'est dans le doute qu'on forge sa foi aussi.
Tout à fait. Je
pense. Oui, mais il y a une question. Alors, il y a une question de thérapie ecclésiale. Il y a une trithérapie ecclésiale. On parle de trithérapie, c'est pour moi important. Trois axes thérapeutiques dans notre Église. Le premier axe, c'est la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que je suis en lecture savoureuse, amoureuse de cette parole? Éclairée par l'Esprit Saint. Éclairée aussi par la tradition ecclésiale. Parce que nous ne sommes pas, dans l'Église catholique, dans un sola scriptura. C'est-à-dire que les protestants, ils lisent un truc, ou les évangélistes, ils lisent un truc, et c'est directement, ils sont directement là. Nous, nous nous inscrivons dans une tradition, c'est-à-dire que l'expérience subjective que je peux faire de cette parole de Dieu qui me touche doit s'inscrire dans une tradition, c'est-à-dire que je dois la relier à l'objectivité de mes pères dans la foi. Parce qu'autrement, je suis dans une subjectivité aussi de l'émotion, de ce que je peux ressentir. Donc voilà, la lecture amoureuse de la parole de Dieu dans la tradition. Voilà, première chose. Deuxième chose, c'est les sacrements. Les sacrements, c'est le Seigneur fait ce qu'il dit dans le sacrement. Il fait ce qu'il dit. C'est-à-dire que le baptême nous ouvre à cette vie de l'Esprit en nous. Père, Fils et Saint-Esprit. Les sacrements d'Eucharistie vont nous donner à être, à consommer, à devenir temple du Seigneur par cette communion avec le Christ. Et puis voilà, le sacrement de réconciliation aussi, qui est si important, le sacrement de réconciliation, parce que nous sommes des pauvres pécheurs et nous avons besoin incessamment de ramener l'âtre de notre foyer d'amour avec le Christ. Et je peux vous dire que le tuyau se bouche. Hein. Eh bien oui. Donc la combustion s'étouffe. Hein. Et donc le sacrement de réconciliation nous donne la grâce de déboucher le tuyau. Vous mettez d'accord avec ce que je dis, la question. Et le troisième, donc deuxième axe thérapeutique, les sacrements. Troisième axe thérapeutique, c'est la vie fraternelle. C'est-à-dire que tout ça, c'est du vent si nous ne sommes pas dans l'amour du prochain. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Comment aimant Dieu? En aimant son prochain, comment en aimant Dieu. Et il faut ramener. Mais ce n'est pas nous qui ramenons. Ce n'est pas nous qui ramenons. On en est incapable. Hein? Oui.
Je n'avais jamais si bien compris. Ça commanderait qu'on se...
Les objets inutiles.
Bon, on va peut-être.
Oui.
Comme nous en moins 10.
Il faut le ramoneur.
Oui, il faut le ramoneur.
Il faut le ramoneur.